Liban, anatomie d'un pays déchiré.
La tragédie frappe encore le Liban. Petit pays au cœur d'un Proche-Orient qui s'embrase, enjeu des puissances régionales, fragilisé par ses divisions internes, le destin de la région s'y joue.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de relations internationales, Rassane Salamé.
Épisode 1, 1920, quand le Liban devient français.
Voici ce beau pays qui s'éveille. Libre, échappé des lourdes mains qui pendant des siècles ont pesé sur lui, il va pouvoir appliquer à son développement propre les qualités que vos pères et vous-même alliez si souvent, trop souvent, déployer outre-mer. Proclamation de la création de l'État du Grand Liban par le général Gouraud le 1er septembre 1920. Bonjour Rassane Salamé.
Bonjour.
On va revenir sur cette citation de 1920 qui ouvre ce podcast sur ce pays, cette anatomie d'un pays déchiré, d'un pays en guerre. Mais un mot du moment que l'on vit. Le Liban fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire. C'est pas moi qui parle, c'est le Premier ministre libanais, Najim Mikat. C'est à la fin du mois de septembre 2024, lorsqu'Israël commençait à bombarder le pays. L'histoire du Liban, souvent tragique, on va la raconter ensemble. Mais avec vous, Rassane Salamé, vous êtes libanais, l'un des plus grands spécialistes des relations internationales, notamment, mais pas seulement, du Moyen-Orient, professeur émérite des relations internationales à Sciences Po, expert donc, mais aussi, bien sûr, acteur. Vous avez notamment été l'artisan de l'accord de Taif, qui a mis fin à la guerre civile libanaise à la toute fin des années 1980. Vous avez été aussi aux affaires, ministre de la Culture au Liban, au début des années 2000. Donc c'est cette double casquette qui nous sera très utile pour comprendre ce petit pays coincé entre des grandes puissances et presque entre deux mondes, l'Occident et l'Orient. Je reprends les mots que je viens de lire du général Gouraud de 1920. De quoi parle-t-il quand il évoque les lourdes mains qui ont pendant des siècles pesé sur le Liban? On est en 1920, c'est quoi ces lourdes mains?
Écoutez, le Liban est un tout petit pays. Quand c'était encore la Phénicie ancienne, qui s'étendait d'ailleurs de l'attaquer en Syrie jusqu'à Saint-Jean-d'Acre en Palestine, y compris le littoral libanais actuel, c'était des cités-États qui avaient beaucoup de difficultés à exister politiquement. C'est pourquoi à chaque fois qu'un empire s'élevait dans cette région, de l'empire assyrien jusqu'à l'empire perse au 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'empire romain, bien entendu, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, ces cités-États étaient emportées et intégrées dans un empire plus grand. Mais elles n'ont jamais produit d'empire ou même d'État eux-mêmes. Donc, il y a une histoire libanaise. Je ne dis pas, parce que je ne crois pas au déterminisme historique, mais je crois qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de vieille histoire libanaise de rébellion contre la structure étatique. Les Phéniciens, d'ailleurs, ont fonctionné pour les bâtisseurs d'empire les plus adversaires, les plus opposés les uns aux autres, parce qu'ils maîtrisaient la mer, donc on avait besoin de leur talent. Ils ont mis leur talent au service d'empire qui n'était pas le leur. Et il y a dans cette tradition quelque chose qui perdure jusqu'à maintenant. C'est un petit État d'à peine 10 000 km carrés qui est facilement pénétré, torturé, utilisé, manipulé par plus grand que lui.
Un mot sur le mot Liban. Ça correspond à une entité géographique, le mont Liban. C'est quoi le mont Liban?
Le mont Liban, c'est à peu près 40% du territoire libanais, c'est-à-dire c'est la partie montagneuse du centre du Liban, qui était principalement habitée par les Maronites et par les Druzes pendant l'Empire ottoman. C'est ça le mont Liban. Alors que le littoral faisait directement partie de l'Empire. Le mont Liban avait une certaine autonomie à partir du XVIe siècle, sous un chefferie féodale druze, qui a duré pendant deux siècles, à peu près deux siècles et demi, alors que le littoral et la plaine de la Beka étaient directement reliés au gouverneur ottoman de la région. Parce qu'il faut savoir que le Liban a vécu quatre longs siècles sous domination ottomane, comme partie de l'Empire ottoman. Mm-hmm. C'est vrai qu'une partie du Liban a eu une petite autonomie politique et administrative, notamment sous cette chefferie druze que je citais, qui a su être transconfessionnelle et notamment s'allier avec les Maronites alors qu'il était druze, mais aussi qui a su tisser des liens avec les cités-états italiens et qui lui ont offert de l'armement, de l'aide, etc. Mais il est vrai aussi que cette chefferie n'a pas réussi à se constituer véritablement en État. Ce à quoi le général Gullo fait mention ici, c'est à ces 4 siècles de domination ottomane. Et je crois que c'est une écriture biaisée, entièrement biaisée. Je crois que le Liban doit énormément à la France pour son existence, que sans la France, sans le lobbying intense des Libanais auprès du Congrès de la paix à Paris en 1919, et sans le soutien de Clémenceau et des Français, il n'y aurait pas eu le Liban tel qu'il existe aujourd'hui. Sans la France, il n'aurait pas existé d'ailleurs dans ses frontières actuelles, mais il est vrai que la France a eu un peu trop d'intérêt à noircir le tableau de l'histoire de la période ottomane, qui n'était pas aussi noire que le général Gullo a fait semblant de penser.
Mais avant de parler de 1920 et donc de la création du Grand Liban, effectivement un protectorat français, la France, il faut revenir à 1860, quand Napoléon III, c'est l'Empire, se fait protecteur des Maronites, les chrétiens libanais. J'ai deux questions. Il faut d'abord expliquer aux gens qui nous écoutent ce que sont les maronites, parce qu'on va beaucoup employer ce terme-là. Maronites, c'est quoi ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font là? Et pourquoi en 1860, Napoléon III vient être le protecteur? Et effectivement, c'est ce moment-là qui expliquera plus tard pourquoi la France devient si puissante et présente dans le monde.
Il y a un très beau vers de Henri N. de cette époque. Il dit « Tout Paris tressaille au canon de Beyrouth ». C'est un...
Magnifique.
C'est un vers entré dans l'histoire. La vérité, c'est que la dynamique locale a poussé à une intervention extérieure, française en particulier, mais pas uniquement. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que la chefferie tribale druze dont je parlais tout à l'heure a réussi en réalité à embrigader pendant à peu près 2 siècles une population maronite qui est, les maronites étant, comment dirais-je, une communauté catholique liée à Rome dès le XIe siècle, ce qui n'était pas courant en Orient, où la plupart des chrétiens étaient plutôt liés à la Rome de l'Orient, c'est-à-dire à Byzance. Mais il y avait une minorité qui étaient les Maronites, qui sont nés dans la Syrie actuelle, mais qui ont émigré traditionnellement vers le Mont Liban. Eh bien, les Maronites sont devenus si nombreux et si puissants qu'ils ont commencé à se rebeller contre la chefferie qu'il les avait en fait invités pour vivre sous ses auspices. Et c'est alors qu'il y a eu des massacres d'une violence inouïe en 1840 et de nouveau en 1860, et des massacres qui visaient de gros bourgs chrétiens, notamment la ville de Zahlé dans la Bekaa, mais d'autres aussi dans la région du Chouf, au Mont-Liban et ailleurs. Ce qui a amené plusieurs puissances européennes à penser que l'Empire ottoman, qui était formellement en charge de cette région, était complice ou impuissant dans l'arrêt de ces massacres antichrétiens. C'est pourquoi il y a eu une intervention. Il y a eu une intervention militaire. Les bateaux français sont allés en rade de Beyrouth à cette époque-là. Mais il n'y a pas que cela. Les Autrichiens sont également intervenus. Les Russes sont également intervenus, chacun prenant une communauté sous sa protection. Et cela a amené, en réalité, à quelque chose qui était plutôt positif. En ce sens que l'Empire ottoman a reconnu sa responsabilité, qu'il a puni assez sévèrement les fauteurs de troubles, notamment à Damas, où il y a eu des tueries insupportables. Mais il a également reconnu l'autonomie du Mont Liban et a placé à sa tête un citoyen ottoman chrétien, mais pas libanais, qui donc pouvait comprendre les soucis et les craintes des chrétiens sans véritablement être l'un des leurs.
Être partie prenante,
Et cette période-là, qu'on appelle le Mutasarrifa, c'est-à-dire le gouvernorat du Grand Liban, qui a duré de 1860 à 1914, est peut-être la période la plus heureuse de l'histoire du Liban.
Et c'est intéressant parce qu'on a déjà en place les éléments de tension interconfessionnelle, d'intervention de l'extérieur.
Oui, mais sur 40% du territoire actuel.
Sur 40% du territoire actuel, faut le préciser. On saute un peu pendant la Première Guerre mondiale et au-delà, parce que l'Empire ottoman va être défait, allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et les Français, à nouveau, vont montrer leurs prétentions pour le Liban, pour le Grand Liban. C'est l'épisode fameux des accords Sykes-Picot, accord secret entre les Français et les Anglais, qui se partagent en pleine guerre d'ailleurs, avant même la fin de la guerre, le Proche-Orient. Comment la négociation se fait et pourquoi les Français sont aussi attachés à détacher, si je puis dire, le Liban de la Syrie?
Ce qui s'est passé véritablement, c'est que la deuxième phase de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1917-1918, a été marquée par une intense activité diplomatique entre les alliés en vue d'imaginer le jour d'après. Je vois maintenant la guerre au Moyen-Orient et tout le monde dit « quel est le jour d'après ?» Eh bien, on s'est posé cette question en 1917. Qu'est-ce qu'on fait de l'Empire ottoman une fois qu'il aura été défait ? Il mettra 2 ans à être défait. Les troupes ottomanes étaient encore au Liban et en Syrie presque à la fin de 1918. À ce moment-là, la France et la Grande-Bretagne se sont entendus, comme toujours, dans un accord qui n'est pas d'une clarté totale, sur la division de la région en 2 parties. Et dans chacune de ces parties, chacune de ces puissances ferait ce qu'elle voudrait. Donc il y a eu la partie orientale qui comprend la Transjordanie, le royaume de Jordanie aujourd'hui, et l'Irak, qui sont tombés dans l'escarcelle des Anglais. Et il y a la partie occidentale, qui est la Syrie actuelle et le Liban actuel, qui sont tombés dans l'escarcelle des Français. Donc on ne s'est pas vraiment entendu sur l'organisation politique de cette région, on s'est juste entendu sur les zones d'influence. Mais cet accord péchait par beaucoup de choses, et notamment, il péchait par la question de Palestine. Parce que les Français ont compris que la Palestine serait internationalisée et les Anglais ont pensé que ça ferait partie de leur mandat. Ça créera énormément de tensions par la suite entre les deux puissances. Et il y aura d'autres affaires également de détermination des deux zones d'influence qui vont envenimer la relation franco-britannique pendant plusieurs années, notamment l'affaire de Mossoul que les Français revendiquaient et que les Anglais ont réussi à attribuer à l'Irak.
Donc après la Première Guerre mondiale, on a le système des mandats. Ce ne sont pas des colonies. L'idée, c'est qu'on considère qu'elles ne sont pas mûres pour devenir indépendantes et que donc les puissances européennes doivent les accompagner, les guider vers l'indépendance qui arrivera quelques années plus tard. Et donc la France se retrouve la puissance mandataire au Liban. Comment se passent ces années-là, ces 2 décennies finalement de présence française au Liban ? Et d'ailleurs, d'un point de vue linguistique, c'est important parce que le français devient langue officielle à ce moment-là, à côté de l'arabe au Liban.
La France est alors inspirée par le libéralisme philosophique de l'époque. C'est-à-dire que la civilisation avance et il y a des gens qui sont sur plusieurs endroits de ce chemin vers la civilisation. Il y a les moins avancés et on y installe des colonies. Un peu plus avancé, on y installe des protectorats. Un peu plus avancé, on y installe des mandats. Ou déjà avancé, on leur accorde l'indépendance.
C'est fou.
C'est la grande illusion libérale du 19e siècle. Ouais. La France est en plein dedans. Et donc, le Liban est considéré, comme les autres pays de la région, comme étant le stade le plus élevé avant l'indépendance. Donc, c'est un mandat qu'on leur impose. En réalité, les Français ont gouverné le Liban pendant ces 2 décennies, même s'il ne s'agissait que d'un mandat. Et la preuve la plus importante, c'est ce qui s'est passé en 1923. Il y a eu l'accord de Lausanne sur la clôture de l'Empire ottoman après le triomphe de Mustafa Kemal en Turquie. Et tout de suite après, c'est la France qui s'accorde à elle-même le droit de déterminer qui est Libanais. Et c'est les consulats français à travers le monde qui accordent les cartes d'identité libanaises. Et c'est la France qui s'installe au Liban avec un haut commissaire. Quand il était franc-maçon, il défendait l'État français. Et quand il était catholique, il défendait la vieille alliance avec les Maronites. C'était amusant, d'ailleurs. Ça dépendait beaucoup de la personnalité de ces notables de la Troisième République, parce qu'il s'agissait de ça en particulier. Et en réalité, c'est la France aussi qui, en 1926, accorde à ce pays sa constitution. Et là aussi, c'est amusant, parce que c'est la première constitution que le Liban obtient. Elle est très inspirée par les Français. Et surprise, surprise, cette Troisième République française produit pour le Liban une constitution de Cinquième République. Un régime présidentiel, ultra-présidentiel, où le gouvernement et le Parlement sont placés dans une position seconde et le pouvoir est livré, un peu comme dans l'article 16 de la Constitution de 1958, à un président de la République.
Mais la Seconde Guerre mondiale, sans oublier aussi les nationalismes chrétiens et Syriens qui vont se fédérer contre la présence française. Tout cela va aboutir en 1943 à l'indépendance du Liban. Ça sera l'objet du prochain épisode. Liban, anatomie d'un pays déchiré, un podcast original de France Inter.